La cinquième édition de la Fête de la Graine a eu lieu à Pézenas le week-end du 11 et 12 avril. Au programme de cette fête organisée par l'association Pézenas en Transition, des ateliers, stands d'associations locales, conférences gesticulées, mais aussi des tables rondes que RPH est allé enregistrer. Aujourd'hui, à écouter la conférence « Le blues de Gaïa », animée par Jérôme Ivora, de la Société protectrice de la nature du Picénois.
Bien, bonjour à tout le monde. Le thème de cette session, effectivement, c'est la terre-mère. La terre-mère, on peut l'aborder sous différents plans. Alors, j'ai choisi un plan un petit peu original aujourd'hui. La terre-mère, c'est un sujet vaste. La terre-mère, par rapport à la protection de la nature et par rapport à la protection des ressources, surtout pour les générations futures, je voulais l'envisager sur un plan un peu différent par rapport à tout ce que, à nous, en écologie, on aborde. Et je voulais faire un lien un peu entre une vision historique et une vision naturaliste. Alors j'ai pris un parti pris. Un parti pris, ça s'assume dès le départ, bien entendu. Et ce parti pris, c'est de remonter un petit peu le temps et de vous amener à un temps où les dieux traînaient encore sur la terre au milieu des hommes. Et pendant ce temps-là, effectivement, l'homme et la nature avaient un autre regard en miroir l'un par rapport à l'autre. L'homme et la nature et l'homme surtout, se côtoyaient d'une manière différente, avaient des enjeux différents d'aujourd'hui. Ce n'étaient pas des enjeux autant modernes où on se bat pour du pétrole, où on se bat pour une terre. C'était des enjeux pendant lesquels, une période plutôt pendant laquelle, la terre en tant que telle était respectée parce qu'elle était vénérée. C'était une personne parmi d'autres. Les arbres en faisaient partie, les fleuves en faisaient partie. Ils avaient une consistance humaine autant que l'homme avait une consistance naturelle. Et ce jeu de miroir, nous l'avons perdu. Ce jeu de miroir, nous l'avons perdu par un certain matérialisme. Un certain matérialisme qui nous a coupé des racines et qui nous a fait croire que la présomption humaine pouvait dépasser les limites. Alors aujourd'hui, on va faire un petit saut dans le passé et on va remonter à une époque qu'on appelle l'époque grecque. Alors elle est vaste cette époque grecque, bien évidemment. À une époque où effectivement la terre était une déesse, la terre était Gaïa. Et on va remonter depuis ce temps-là en arrivant aujourd'hui. On ne va pas arriver bien loin d'ici, on va rester ensuite autour de Pézenas. On va remonter le temps et pour arriver ici autour de nous, pour voir un peu ce qu'il en reste de cette Gaïa qui a le blues. Alors, au commencement de mon histoire, il y a un mythe, un grand mythe fondateur. Le grand mythe fondateur de toute la mythologie, c'est la guerre de Troie. C'est un temps où les héros se déployaient sur Terre, ils étaient mi-dieux, mi-humains, et où effectivement les péripéties de l'Olympe et les péripéties humaines étaient mêlées. Et souvent, la guerre de Troie est présentée comme un enjeu de turpitude entre les dieux en haut qui ont une vision un peu, comment dire, machiavélique de ce qui doit arriver sur Terre, et puis les hommes qui, pris dans les turpitudes des dieux, essayent de se dépatouiller et essayent eux aussi de faire leur propre jeu avec leur propre destin en main. Cette lecture de la guerre de Troie, elle commence, pour moi en tout cas, avec un chant cyprien qui date du VIe siècle, où en fait les prémices de la guerre sont apportées par un conflit. Un conflit entre la déesse mère, entre Gaïa et les hommes. L'humanité qui a été enfantée par Zeus se retrouve dans un déséquilibre avec la nature. Et la nature mère, Gaïa, se plaint auprès de son petit-fils Zeus. Il lui dit, voilà, les hommes que tu as créés, non seulement ils me pillent, non seulement ils m'éventrent, non seulement ils me sabordent, mais en plus, ils ne me rendent pas les honneurs auxquels j'ai droit, moi, la déesse de l'Olympe, au même titre que vous. Et donc, cet irrespect, c'est le point de départ d'une aventure que vous connaissez sous les noms de l'Iliade et de l'Odyssée, aventure sur laquelle Zeus va essayer de réparer une erreur originelle qui a été de confier trop de choses aux hommes. Et ces hommes qui sont irrespectueux envers sa grand-mère, il va les châtier. Alors pourquoi est-ce que Gaïa se plaint? Pourquoi est-ce qu'elle se plaint auprès de son petit-fils? L'histoire, l'humanité créée par Zeus dans la mythologie grecque, bien évidemment, cette humanité-là, elle a subi plusieurs phases de dégradation. plusieurs phases de dégradation sur sa nature, sur Gaïa. Le premier acte, pendant cette période longue, qui est la période hellénistique, c'est une phase de déboisement. Elle est liée, en fait, à une transition entre des hommes qui habitaient le Moyen-Orient et puis des hommes qui habitaient l'Europe septentrionale. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui vont petit à petit rentrer en contact avec des hommes venus d'ailleurs, des hommes au sens humanité, bien évidemment, avec un H majuscule. Dans cette humanité qui arrive avec une autre tradition, qui est le néolithique, va rencontrer une humanité qui, elle, était là depuis bien longtemps et qui était des chasseurs-cueilleurs, chasseurs-collecteurs, comme on dit maintenant. Et petit à petit, de chasseurs-cueilleurs, les humanités vont se transformer en humanités sédentaires. Ces humanités, elles nous ont laissé des traces, elles nous ont laissé des outils. Ces outils par lesquels elles ont commencé à agresser Gaïa, en surface d'abord. Alors, ce sont effectivement des outils pour défricher. C'est le fameux maillet ici avec la hache polie. Ce sont des outils pour ensuite cultiver, récolter, transformer. C'est la poterie qui nécessite de déboiser pour faire du feu, pour entretenir les foyers. C'est toute l'industrie qui va être développée autour de la transformation. L'invention des fromages, l'invention des pâtes, etc., etc. Et puis ensuite la mise en culture avec les fèves, les pois, les lentilles, les céréales. Donc toute cette première humanité va se pérenniser et va rester sur place, elle va devenir sédentaire. Cette humanité, comme je vous ai dit, elle arrive ici, alors je vous ai mis ici quelques images que certains peut-être reconnaissent, elle arrive ici par la voie fluviatile, parce qu'effectivement non seulement elle passe par le milieu côtier pour arriver du Proche-Orient en pirogue ou en petit bateau, et quand elle arrive sur Pézenas, elle y arrive en pirogue. Je vous ai remis votre arrivée en pirogue, quoi, pour ceux et ceux qui sont arrivés avec le GREPAM en 2022. On avait fait un colloque d'archéologie expérimentale, et voici les néolithiques qui arrivent sur Payne. Alors quand ils arrivent, ces néolithiques, ils s'implantent et ils font les premiers villages pérennes. Je vous ai mis ici une évocation qui est tirée en fait de la fouille de diagnostic que l'IDRAP a fait en 2015 sur le futur village de Saint-Christol, que j'ai appelé néo-village, parce qu'en fin de compte, ce futur village destructeur du milieu agricole de Saint-Christol, c'est en fait un village qui va être construit sur un village néolithique. On en a les preuves parce que en fouille archéologique, les foyers sont sortis et les structures en habitat sont dessous. C'est un habitat qui a entre 3000 et 2500 ans avant Jésus-Christ, vous voyez. Et puis ce néolithique dans la zone, il est également présent non seulement par la cité des vivants, le village de Saint-Christol, mais également pour la cité des morts, comme dirait Saint-Augustin, par les dolmens et les menhirs que nous avons sur notre territoire. Et là, je vous l'ai illustré par le dolmen qui est en train d'être fouillé actuellement sur le commune de Nizas. C'est un dolmen néolithique qui date à peu près de 2200 ans, qui est fouillé par la communauté de l'agglomération Euro-Méditerranée. Donc ces hommes qui s'implantent ici, non seulement ils s'implantent de manière pérenne, mais ils ont une emprise sur le territoire parce qu'ils déforestent, parce qu'ils aménagent, parce qu'ils transforment de manière irrémédiable les conditions de vie et les conditions de la terre-mère. Ensuite, la seconde étape, après cette phase néolithique, c'est l'étape de l'éventration. On a dégradé la pellicule, maintenant on va dégrader Gaïa en profondeur. C'est l'âge des métaux. C'est l'âge des métaux, celui qui va nous intéresser pour la guerre de Troie d'ailleurs. Nous ici, dans notre zone, cet âge des métaux est représenté par une mine, celle du Piocheferus à Cabrières. C'est la plus ancienne mine de cuivre de l'Europe, en France, mais également au niveau européen. Donc cette plus ancienne mine de cuivre, elle permettait d'extraire, vous avez les outils ici, vous avez le minéral extrait, elle permettait d'extraire le cuivre et plus tard d'autres types de minéraux tels que le fer et l'argent également. Ceci étant, cette mine de cuivre, elle s'insère dans un complexe économique. Il ne faut pas regarder Cabrières comme un petit centre. Cabrières s'inscrit dans une mondialisation. Cabrières et Villemonde. Cabrières et Villemonde dans la mesure où le cuivre de Cabrières va s'exporter. Il va s'exporter parce qu'une découverte fondamentale va être faite après l'âge du cuivre, l'âge du bronze et l'âge du fer, bien entendu, mais à l'âge du cuivre, effectivement, on découvre une certaine manière d'associer les métaux. Et quand on associe le cuivre avec l'étain, on obtient le bronze. Et ce bronze va être un des enjeux majeurs, c'est le pétrole de l'Antiquité grecque. C'est l'enjeu qui va déclencher tous les conflits, toutes les guerres, parce que le bronze, en tant que tel, c'est un métal brillant, c'est un métal très recherché dans la Grèce, effectivement. Alors, le symbole ici, local, de ce bronze, bien entendu, c'est l'Éphèbe d'Abde, qui est une statue de bronze qui a été restaurée, bien entendu, qui date du IIe siècle avant notre ère, et que vous pouvez admirer au musée d'Abde. Donc, l'étain, le cuivre pour faire du bronze. Et alors ça, c'est la chasse. La chasse est ouverte. La chasse est ouverte parce que l'étain, il n'existe pas en Grèce. Il n'existe pas, et il fait partie, les mines d'étain font partie, en fait, des trésors qu'il y a du côté de l'Ouest européen, en Espagne, au Portugal, jusqu'à l'Angleterre. Et pour ce qui est du cuivre, même si on a des mines comme Pioche-Favarus, c'est pas suffisant, effectivement, pour alimenter la plus grosse exploitation de cuivre allée du côté de l'Est de la Turquie. Et au centre, vous avez Athènes et toutes les villes. Toutes les villes grecques qui ne demandent qu'une chose, c'est de se faire ravitailler en étain et en cuivre pour pouvoir produire le bronze. Le bronze si recherché. Et alors ce bronze, il arrive par mer, il arrive par terre. Et puis malheureusement pour Troie, il y a un passage. Il y a un détroit. Pas le détroit d'Hormuz, non. Il y a un détroit qui est les Dardanelles. Et qui c'est qui garde le détroit? Ben, c'est Troie. La ville de Troie, effectivement, est magnifiquement bien placée sur cette voie maritime qui alimente les cités grecques en ce produit si précieux qu'est le cuivre pour faire cet alliage si précieux que va être le bronze. Et à partir de là, effectivement, vous avez le déclenchement de ce qui devait être inévitable. Vous avez premièrement une recette magique qui produire un alliage. Vous avez une ressource convoitée qui n'existe pas dans la zone où on va l'exploiter. Vous avez un détroit commercial maritime qui est sous le contrôle d'un ennemi. Et vous avez un mâle dominant cocu. Alors là, c'est le déclenchement, on va dire, testiculaire. C'est le déclenchement humain de la chose, effectivement. Comment supporter quand on est ici, effectivement, le roi, comment supporter que sa femme, la belle Hélène, parte avec Paris, le petit arriviste de la ville concurrente. Donc, vous comprenez bien que tout était joué. Cette ville de Troie qui va être rasée, qui, effectivement, fait l'enjeu d'une guerre impitoyable entre les Grecs d'un côté et les Troyens, qui pourtant étaient Grecs à l'origine, mais qui ont voulu se détacher de la mère patrie, comme on dirait aujourd'hui, ben, cette guerre va justement intervenir pendant la période la plus florissante de l'âge du bronze, entre 1300 et 1200. Alors elle a été fixée, cette guerre, dans des écrits beaucoup plus tardifs. 1300-1200, c'est la guerre de Troie, et l'Iliade est fixée par écrit vers 750-500. Effectivement, c'est l'âge du fer, cette fois-ci. Donc il y a plus de 500 ans qui séparent les récits archéologiques du récit maintenant placé, effectivement, dans l'Iliade et l'Odyssée. Entre-temps, ben, c'est la culture orale qui a transmis cette légende. Et cette légende arrive à nous avec ce chant d'Homère, ce poème d'Homère, qui est que Gaïa, elle se plaint. Elle se plaint auprès de Zeus de ce que les hommes, en l'éventrant, en lui rendant pas ses hommages, piétinent effectivement ce qu'elle est, c'est-à-dire la déesse qu'elle est. Et Zeus, pris de pitié pour sa grand-mère, va déclencher les foudres et déclencher la guerre de Troie. L'histoire ici, c'est pas le lieu que de la raconter, mais en tout cas, les Grecs, pour justifier cette guerre qui est purement commerciale, ont inventé une propagande comme toujours. Quand ils ont voulu détruire la civilisation minoenne, ils ont inventé la propagande du Minotaure. Et effectivement, Thésée qui va se battre et tuer cet horrible monstre, parce que les Minoens étaient horribles et qu'il fallait que les Grecs les dominent. Et là, effectivement, les Troyens étaient horribles et il fallait que les Grecs les dominent. Et la religion abonde, comme disait un certain poète bien célèbre, les dieux ont soif. Alors quand les dieux ont soif, il faut les assouvir. Donc ici, cette guerre de Troie, qui est une guerre pour le métal, qui est une guerre pour le minéral, c'est une guerre d'éventration de la terre. Cette éventration, elle se faisait, et elle va se faire de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus systématique, à partir des temps modernes. L'homme, vous le savez, aime bien inventorier ses richesses. Depuis l'invention du cunéiforme, on prend des tablettes et on écrit ce qui est en notre possession. Alors on a des vaches, on a des chameaux, etc., etc. On fait des grands inventaires et puis ensuite on les fixe parce que moins quand c'est fixé, c'est à nous, c'est écrit pour toujours. Les paroles s'envolent mais les écrits restent.
Vous écoutez Radio Pays d'Hérault ou RPH Sud.
Donc cet inventaire de l'époque moderne en France, comme vous le voyez, il date en fait de l'époque royale. En 1775, en Languedoc, les états du Languedoc chargent un naturaliste de faire un inventaire complet pour l'époque, bien évidemment. Et alors ce naturaliste, M. de Janssen, parcourt le Languedoc et il dresse zone par zone toutes les richesses du Languedoc. Alors ce traité qui fait l'état de toutes les richesses à l'époque exploitées, qui vont du charbon à la terre, au charbon de terre, au charbon de bois, et puis ensuite des pierres de taille et autres, il inventorie tout, il donne ça au pouvoir royal. Et le pouvoir royal, c'est ainsi organiser, planifier son territoire, les richesses et les potentialités économiques pour faire... Pour implanter effectivement des usines au sens moderne, mais en tout cas des centres de production. Et depuis l'époque moderne, des structures différentes, toutes scientifiques, ont dressé des inventaires. Et vous avez mis deux là qui sont en lien avec ce qu'on va voir maintenant. Un inventaire de 1972 qui est confidentiel, comme vous le voyez, qui a été commis par le commissariat de l'énergie atomique, et qui est un inventaire sur le secteur de l'ODEME. C'est un inventaire qui a été fait à l'époque parce que on s'intéressait déjà aux mines d'uranium, aux ressources en uranium, et donc la France était curieuse de savoir quelles étaient l'ampleur des ressources et le potentiel économique qu'on pouvait en retirer. Et dans le secteur de l'ODEME, ça faisait depuis les années 1920, donc très longtemps en avance, 50 ans en avance, que certains avaient mesuré effectivement les taux de radioactivité anormaux, notamment dans les eaux profondes qui remontaient, les sources profondes notamment. Alors ça a attiré le BRGM, le Bureau des ressources géologiques et minières, qui a commencé à faire ses inventaires scientifiques. Et puis à l'occasion d'un de ces inventaires, à l'époque c'était pas très important, il a découvert que les eaux de l'ODEME étaient riches en certains minéraux, le lithium. À l'époque c'est pas ce qu'ils recherchaient. Alors du coup ils l'ont mis. Le lithium, et puis voilà, on tourne la page et nous on cherche l'uranium. Alors l'uranium, effectivement, ils l'ont trouvé, et c'est Kojima qui s'est monté pour exploiter cette mine. C'est en 1975 que l'objectif a été retourné sur l'uranium et que les premiers inventaires hydrologiques de ressources d'uranium ont été publiés de manière officielle. Donc vous voyez, l'homme inventorie répertorie tout le potentiel des minérales, des ressources de Gaïa. Et voilà ici les ressources qui ont été exploitées autour de Pézenas. Alors les ressources profondes d'un côté, les ressources de surface de l'autre. Je m'aperçois que ma diapo est un peu trop claire, effectivement. Alors en noir, vous avez les ressources profondes, telles que le charbon, la barite, l'uranium, le cuivre et le pétrole. Et puis en blanc, qui ne passe pas ici à l'image, ce sont les ressources superficielles. Alors c'est le basalte, c'est la fourrure, c'est le calcaire à chaud, ce sont les calcaires, les argiles de Pézenas, qui permettait effectivement de produire des tuiles, et ainsi que les graves sorties de l'Hérault, avec les sables également, et puis en profondeur à Pézenas, également l'aquifère profond, la source d'eau chaude, comme on l'appelle ici. Donc tous ces inventaires-là, ils ont été faits petit à petit, et ils montrent que nous, dans notre région à nous, à partir de l'époque moderne, on a commencé à exploiter profondément et superficiellement également notre terre-mère. Alors, deux points maintenant. La ruée vers le lithium, avec un magnifique point d'interrogation. Alors certains et certaines reconnaîtront l'image que j'ai reprise effectivement sur les avions renifleurs, parce qu'en fait cette histoire du lithium ressemble fortement à une histoire que vous avez connue, moi j'étais trop petit à l'époque, c'est une grande escroquerie, les avions renifleurs. L'avion renifleur qui reniflait le pétrole qu'on lui avait déjà mis sous le nez, et qu'on a payé effectivement 5 milliards, dans l'avion renifleur avait bien reniflé une source, certes, mais c'était l'argent public. Hein. Alors ce lithium, on sait qu'il existe depuis 1972, vous l'avez marqué, et mesure après mesure, notamment la source du Puech, on sait qu'il y a à peu près, je vous ai mis les chiffres ici, entre 0,23 et 0,61 mg de lithium par litre d'eau. Bon. Et ce lithium, effectivement, il est repéré dans les premières études en 1972. Donc ce lithium repéré depuis bien longtemps, on sait où il est géologiquement. Il est dans des terrains très 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 bas, il faut aller le chercher à plus de 600 mètres de profondeur. Et dans ces terrains très bas, il y a des hydrocarbures également. Il y a du gaz, il y a du pétrole de schiste. Pour les atteindre, il faut pratiquer ce que l'on appelle la fracturation hydraulique. C'est interdit. Par contre, le lithium est au milieu. Vous voyez où je vais en venir ? Donc effectivement, le lithium est au milieu. L'uranium, non. L'uranium appartient à des terrains géologiques beaucoup plus hauts. L'Oduvien gris, effectivement. L'uranium et le lithium ne sont pas dans les mêmes niveaux géologiques que les niveaux à hydrocarbures et à gaz. Hydrocarbures de schiste et gaz de schiste, donc. Et alors, on nous a dit, quand l'idée d'exploiter le lithium de l'Odève est venue sur la table, on nous a dit, ça va être magnifique parce que ça va être une source économique gigantesque pour le territoire. On a fermé l'uranium, vous allez voir, le lithium va donner un surplus économique. On va éventrer géant jusqu'à 1000 mètres de profondeur, on va ressortir les saumures qui contiennent le lithium, et on va exploiter le lithium, comme en Alsace. Parce qu'en Alsace, effectivement, il y a de magnifiques ressources à lithium. Alors, je me suis amusé à faire la comparaison. Le fossé d'Alsace, qui est très riche en lithium, on connaît effectivement la ressource. C'est les granites des Vosges et de la forêt noire. Nous, ici, s'il y a du lithium, on ne sait pas trop d'où il vient. Ensuite, pour donner aux saumures une quantité de lithium exploitable, il faut de l'eau très chaude. Très chaude et très saline. Dans le bassin d'Alsace, c'est le cas. Vous connaissez tous les potasses d'Alsace. Ce sont des sels très 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 concentrés qu'on utilise depuis bien longtemps. On utilise notamment le sel d'Alsace pour répandre sur les routes, pour effectivement faire fondre la neige plus vite. Et les sources d'Alsace associées à ces sels d'Alsace sont entre 170 et 250 degrés. Alors ça, effectivement, ça érode beaucoup les roches, notamment les granites, et ça libère le lithium qui est à l'intérieur. Et la concentration en lithium dans les saumures d'Alsace est d'à peu près 214 mg par litre. Alors ça, économiquement, c'est rentable. Quand on se tourne vers le bassin de l'Odève, le bassin des futurs avions renifleurs, eh bien on s'aperçoit que non seulement on ne sait pas trop d'où vient le lithium, mais nos sources à nous, elles font entre 50 et 57 degrés. Ça n'a rien à voir avec les températures atteintes en Alsace. Et en plus, il n'y a pas de saumure, il n'y a pas de sel. Donc ce sont des saumures très froides, on les appelle ainsi, qui en plus ne peuvent pas trop altérer les roches. Et d'ailleurs, quand on mesure les concentrations des saumures, les petites saumures de l'Odève, elles sont à 0,76 mg par litre. Quand vous comparez effectivement avec le taux de saumure en lithium en Alsace, ça n'a rien à voir. Donc je vous ai mis en titre de comparaison quelle est la concentration de votre eau du robinet. En moyenne, il y a 0,011 mg par litre de lithium dans l'eau que vous buvez tous les jours. Alors certes, effectivement, il y en a plus dans l'eau de l'Odève. Ceci étant, quand on compare avec l'eau d'Alsace, ça n'a rien à voir. Et vous savez, en matière énergétique, une ressource, ça ne se mesure pas avec autre chose que la rentabilité. Vous pouvez très bien avoir du plomb, du cuivre, de l'aluminium. S'il faut trop d'énergie pour l'extraire, c'est pas rentable. Et si c'est pas rentable, on ne l'exploite pas. Et la mine ferme. Vous avez fait croire aux gens qu'ils allaient avoir de l'emploi pour 50 générations. Au bout de 3 générations, on épuise la ressource. Alors c'est quoi la ressource véritable qui est cachée sous le lithium? Alors on pose des questions parce que, avec les études sur le lithium, les dernières publications montrent qu'il y a de l'hélium, de l'hydrogène et des ressources carbonées qu'on peut atteindre par fracturation hydraulique. Et puis ensuite, il y a d'autres ressources, bien évidemment, comme celle des avions renifleurs, les aides publiques, les subventions données aux entreprises qui forent, aux entreprises qui effectivement font les prospections, à perte, mais en tout cas qui ont empoché le pognon. Alors le lithium, il faut regarder ça avec circonspection. La DS Terre a dans son sein du lithium sous l'Odève, mais c'est pas dit que ce lithium soit une richesse. Ça peut être plutôt une source d'appauvrissement. Ensuite, pour atteindre Gaïa, parfois il faut forer. Il faut forer pas forcément pour aller chercher, aller extirper de la déesse mère des éléments pour construire ou des éléments pour faire de l'énergie, mais là, effectivement, pour produire de la chaleur. Alors à Pézenas, comme on disait avant, effectivement, on n'a pas trouvé de pétrole. À Gabien, il y en a eu un peu. ça n'a pas été la ruée vers l'or noir. Mais en tout cas, à Pézenas, on a de l'eau. Alors désolé pour si je vous heurte, mais à Pézenas, on est mal de l'eau tiède, nous. On n'a pas de l'eau très chaude. Elle est à 37 degrés. Alors cette source d'eau chaude, elle a une histoire, bien évidemment. Cette histoire, vous savez, le pétrole, c'est une aventure. C'est une aventure humaine qui commence en 1850. Avant 1850, pour s'éclairer, on allait massacrer les baleines. On allait massacrer les baleines et de leur crâne, on extrayait une huile. Cette huile, on l'a ramenée dans les baleiniers. Et puis, elle était tellement précieuse et chère que cette huile, on ne l'utilisait que pour les gens qui avaient les moyens de se l'offrir. Et puis, en 1850, il y a un géologue québécois qui découvre le fait qu'on peut également utiliser un pétrole qu'il appelle le pétrole lampant pour obtenir une source lumineuse propre, qui ne fait pas de fumée. S'éclairer à la bougie, ça fait de la fumée, ça fait du noir d'anthracite de partout. S'éclairer au bois, effectivement, ça mauvais, puis ça fait de la fumée. Et puis, c'est pas très rentable. Alors que effectivement, ce pétrole lampant, on peut l'utiliser à très grande quantité et on peut l'utiliser pour l'éclairage public. Et à partir de là, c'est la rue vers l'or noir s'organise. Premièrement, pour faire de la lumière à bon marché, et puis à l'aube du XXe siècle, pour alimenter les moteurs à explosion. Ça a été une seconde conséquence. Et là, c'est la grande aventure qui commence. Et quand l'aventure de la voiture, du moteur à explosion commence, eh bien, il faut que chacun essaye de trouver ses sources de pétrole. La France, dans les années 30, comme vous le voyez ici, à une époque très reculée que personne n'a connue, peut-être, à l'époque de Paul Ramadier, eh bien, la France était dépendante de l'Irak, du Venezuela, de la Roumanie et des USA, déjà, pour s'alimenter en pétrole. Alors, le gouvernement français de l'époque se dit, pourquoi n'aurait-on pas du pétrole, nous aussi? Alors, Paul Ramadier lance une grande campagne, une campagne de forage dans toute la France. En 1939, la campagne est lancée, et la France crée la Société Nationale des Pétroles du Languedoc, et elle arrive chez nous dans les années 48-49. Et c'est dans ces années-là qu'effectivement le puits, le forage numéro 2 de Pézenas s'est fourré. Ça, regardez, le forage avait les méthodes de l'époque, effectivement, il commence le 15 octobre 48 et il atteint le fond le 17 février 49. Le fond qui était prévu pour qu'il y ait du pétrole. Ce qui remontait, c'est de l'eau. Ce qui remontait, c'est de l'eau, c'est déjà pas si mal. Ce qui remontait, c'est de l'eau, et avec la géothermie naturelle, c'était une eau un peu chaude, à 37 degrés. Alors cette eau qui est comprise entre, vous voyez, aux alentours de 700 mètres de profondeur, elle a été captée, rachetée par la commune qui l'a utilisée dans un premier temps pour la piscine. Avec des pertes. Elle ressort à 37 et quand elle arrive à la piscine, avec le transport, elle n'était plus qu'à 32. Et puis après, on s'est mis en tête de savoir si cette eau, elle ne pouvait pas être utilisée pour la géothermie. Parce que c'est une source de chaleur. Elle ne peut pas chauffer, certes, mais on peut tempérer avant d'allumer le chauffage. Donc si on monte à 25 degrés les habitations, après on n'a plus qu'à chauffer entre 25 degrés et X degrés, et ça fait faire des économies d'énergie fantastiques, surtout par les temps qui courent. Alors voici le premier dessin qui a été fait du forage de Pézenas. C'est un dessin historique. Un dessin historique qui a été fait, Pézenas 2, qui a atteint effectivement le puits. Le puits d'eau a été atteint, comme vous le voyez ici, à la profondeur 783 mètres et 32 cm. Donc, à ce moment-là, on a su qu'effectivement, on avait une ressource d'eau et d'une eau géothermique à Pézenas. Cette ressource, comme vous le voyez, elle fait partie de l'ensemble. Je l'ai entourée ici en jaune. C'est une nappe phréatique, donc une nappe aquifère qui est très profondément enfouie. Je vous ai mis le modèle ici. Pour comprendre d'où vient cette eau, parce que cette eau, elle a quand même une origine, hein. Il y a toujours en amont et en aval. Dans l'amont, ce sont les garrigues. Les garrigues entre Romelas, la Gardiole, Mourin, la montagne de l'Amour et les garrigues de l'Ouest Montpellier. Elle s'infiltre là-bas et puis ensuite elle descend à très grande profondeur. Et comme on a un gradient géothermique un peu anormal dans la région, elle monte en température. Elle devrait être à 24 degrés, elle est à 31,3 degrés. Et cette eau qui est emprisonnée, bien quand on l'atteint par forage, là vous voyez que l'eau elle remonte par forage, là ici, par artésianisme, tout naturellement, toute seule, sans qu'on mette de pompe, eh bien, on peut la récupérer. Et vous voyez ici, à l'ouest de Montpellier, vous avez notre zone à nous. Elle est en rouge, parce qu'on a une anomalie thermique ici. On a des remontées profondes de Gaïa, qu'il nous faut effectivement des échanges thermiques assez importants, dont l'eau est réchauffée. L'eau est réchauffée par les chaleurs de la Terre. Les chaleurs de la Terre qui sont la cause, effectivement, de notre ressource d'eau chaude dans notre secteur de Pézenas.
Vous écoutez Radio Pays d'Hérault ou RPH Sud.
Alors, cette ressource, elle n'est pas inépuisable. Alors, au départ, on se disait, si une ressource tellement profonde, elle doit être héritée de cycles géologiques infernaux qui remontent à des millions d'années. Donc, quand on tire cette eau, en fait, on a des millions d'années de recul. Non, Tintin. Donc, je disais, cette eau, elle n'est pas inépuisable. Cette eau, ce n'est pas une ressource tellement profonde qu'on peut faire n'importe quoi. Cette eau qui est emprisonnée dans les profondeurs de Gaïa, en fait, elle vient bel et bien de la surface, en quantité et en qualité. Regardez ici, quand il pleut dans la zone des Garrigues, le niveau piézométrique monte, quelques semaines après. Parce qu'en fait, elle s'infiltre et le cycle est court. Le cycle le plus long qu'on ait mesuré dans cette eau, c'est 10 ans. Une goutte d'eau qui tombe à Montpellier, on la retrouve 10 ans plus tard sous Pézenas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait des bêtises du côté de Montpellier en faisant en sorte qu'il rentre de l'eau polluée, le polluant se retrouvera à Pézenas maximum 10 ans plus tard. Alors il faut faire attention à ce qu'on va en faire de cette eau, parce qu'il va falloir savoir ce qu'elle contient. Et ensuite, en quantité, c'est pareil. Je vous ai parlé de la qualité, là, mais la quantité, c'est pareil. Si on utilise beaucoup d'eau pour cette eau-là pour faire ce que l'on fait dans le bassin de Villeverac, c'est-à-dire irriguer un golfe, mais c'est autant d'eau qui est prise effectivement à la nappe profonde. Donc cette eau qui est si précieuse parce que si enfouie, elle n'est absolument pas une ressource éternelle. Elle a une durée de vie, elle a un amont, elle a un aval, et c'est de la responsabilité de tout le monde, des collectivités publiques, que de la gérer. Comme il y a un sage de l'Hérault qui gère le fleuve, ses affluents et les nappes phréatiques qui en dépendent, il va bien falloir que les collectivités territoriales créent un sage pour gérer la ressource profonde. Les ressources profondes, c'est toujours pareil. Elles sont tellement profondes qu'on se pose la question à qui elles sont. Vous savez que parfois, il y a des guerres pour ça. Entre l'Irak et le Koweït, il y a eu une guerre. Pourquoi? Parce que les Koweïtis, pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, ils avaient foré un puits, non pas à la verticale, mais en biais, pour aller pomper sur les ressources d'Irak. Saddam Hussein, qui n'était pas un grand démocrate, après avoir réglé le problème de l'Iran, s'est retourné vers le Koweït, leur a dit, dites donc, pendant que j'avais le dos tourné, vous avez foré en biais. Mais ça m'appartient. Première guerre du Golfe. Mais là, effectivement, ça va être un peu pareil. Mais sauf que là, ça va être la guerre de l'eau. Vous savez que la guerre de l'eau, ça existe. Hein. La guerre de l'eau, ça existe dans plusieurs pays. En Israël, avec la Palestine. Également, et la guerre de l'eau, elle a existé dans Manon des Sources, chez nous. De manière un peu pittoresque, certes. Mais se battre pour l'eau, entre les gens de Crespin et les gens de l'autre village, ça a toujours existé. Donc la ressource et les sources, c'est toujours un lieu de conflit. Donc là, cette eau, elle a un début, elle a une fin, elle a un cycle, et ce cycle, il faut bien le connaître pour savoir le gérer. Alors cette eau, effectivement, on peut l'utiliser pour deux raisons. La première raison, effectivement, c'est l'eau. Avec tous les impondérables, c'est une eau très profonde. Une eau très profonde qui contient notamment de l'arsenic. Donc effectivement, on ne peut pas en faire n'importe quoi, il faut la traiter. Elle est très ferrugineuse, elle encrasse effectivement la tuyauterie aussi. Et puis il y a la source d'eau chaude, c'est les calories. Alors, je vous ai mis ici les singes, effectivement, qui pourraient se baigner dans Pain. Alors, les singes, c'est vous. Hein. Ça, c'est les macaques japonais qui, effectivement, vont se baigner dans les sources d'eau chaude liées au volcan du Mont Inzen. Mais là, effectivement, on pourrait effectivement rêver que nous, les macaques locaux, on puisse effectivement se baigner dans Pain. Hein. Comme certains l'ont fait quand ils étaient jeunes, parce que la source d'eau chaude avait été détournée pour aller dans Pain. Il y avait certainement des bassins d'eau à température un peu élevée, même pendant les périodes un peu froides. Hein. Donc cette eau, c'est une ressource, il va falloir bien savoir ce qu'on en fait en termes de calories et en termes d'eau. Je vous ai mis ici un dessin un peu humoristique et sarcastique sur qu'est-ce qu'on fait avec l'eau. L'irrigation, effectivement, nous dans les pays du Nord, on irrigue beaucoup, on a cette potentialité, savoir pourquoi on irrigue. Effectivement, si c'est pour irriguer du maïs, soit pour en faire des biocarburants, ou irriguer du maïs pour donner à manger aux vaches, par rapport au pays où quand on irrigue du maïs, mais c'est pour manger, il va falloir se poser certaines questions, pour être un petit peu, comme on dit, raisonnable. Et puis, il y a hier. Hier, vous avez entendu notre Premier ministre. Donc, effectivement, j'avais pas prévu cette diapositive, mais malheureusement, vous savez, l'actualité nous rattrape. Alors hier, notre Premier ministre nous a dit qu'il fallait retourner à l'ère de Pompidou. La France, ses fromages, c'est terminé. Et la France, effectivement, doit retrouver son indépendance énergétique. Et l'indépendance énergétique, c'est l'électricité. Et l'électricité en France, c'est le nucléaire. Alors effectivement, il va falloir faire un deuil. Le deuil de l'atome comme danger pour accepter l'atome comme ressource. Parce que l'uranium, effectivement, c'est une ressource énergétique sans commune mesure. Alors quand on regarde bien, effectivement, la France aujourd'hui, pour faire fonctionner ses 56 réacteurs nucléaires, j'ai regardé les ressources de l'EDF hier soir, bon, on a besoin de 8 000 à 9 000 tonnes d'uranium. On l'a plus. Avant, on a exploité de l'uranium en France, à Kogema, à l'ODEV. Mais c'est terminé, ces mines sont fermées parce qu'elles ne sont pas assez rentables. Notre uranium, c'est le Kazakhstan, c'est le Canada, et c'est la Russie. Alors, effectivement, l'indépendance énergétique, quand on regarde le pétrole, effectivement, le pétrole, nous, c'est les USA, c'est le Venezuela un petit peu, tant qu'il y avait des pluies, mais il n'y en a plus. Et ça a été en partie la Roumanie, ça a été la Russie avec les gisements de Bakou. Mais effectivement, aujourd'hui, avec les reconfigurations géostratégiques, c'est le pétrole américain que l'on achète. Et là, effectivement, c'est l'uranium en partie russe que l'on achète. Alors, parler d'indépendance énergétique, pour ce qui est de l'électricité, si on fait fi des énergies renouvelables, puisqu'elles sont intermittentes, soi-disant, et qu'effectivement, il faut miser sur l'uranium, ben effectivement, il va bien falloir trouver à qui acheter ces 1,4 milliards d'euros à dépenser chaque année, à qui on va les donner. Le Kazakhstan, c'est une grande et belle démocratie, il paraît. Les prisonniers qui sont dans les prisons du Kazakhstan peuvent en témoigner. La Russie, c'est une grande et belle démocratie, il paraît. Les prisonniers russes, effectivement, peuvent en témoigner. Mais en tout cas, effectivement, l'uranium n'est pas forcément dans les pays les plus fréquentables de la planète. Alors bon, on verra bien ce que nous allons dire à l'avenir, mais électriser et se rendre indépendant, c'est pas forcément la même chose. Alors certes, effectivement, quand on regarde de manière brute, on a éventré Gaïa pour aller chercher plein de choses. Hein. On a été chercher du bois, en la déforestant, du charbon. On a fait effectivement des forages, on a foré, comme dit Trump, pour aller chercher du pétrole. On y a fait du mal à Gaïa. Et puis là, aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit qu'avec quelques grammes d'uranium, on a une énergie sans commune mesure par rapport à tout ce qu'on a foré auparavant. Mais il y a toujours un coût. Et effectivement, c'est un débat citoyen, ça, qu'il va falloir avoir. Il n'y a rien. Il n'y a aucune énergie qui est gratuite. Depuis l'aube de l'humanité, les premiers hommes qui ont utilisé le stock des charrues, ils ont traîné eux-mêmes leur socle des charrues. C'était une attraction humaine. Ensuite, il y a eu les animaux. Ensuite, il y a eu les tractions liées à des machines à vapeur. On a brûlé du bois, on a déforesté. Ensuite, on a utilisé du charbon, puis on a utilisé du pétrole. Aujourd'hui, on va utiliser peut-être de l'électricité. Tout est une affaire d'énergie, parce que pour faire fonctionner une société, il faut de l'énergie. À l'époque romaine, on avait des esclaves. Et aujourd'hui, effectivement, le foyer français moyen, dans les statistiques publiées, utilise autant d'énergie que le foyer romain qui avait à son service 50 esclaves à l'époque de Rome, de la Rome antique. Donc on a remplacé les esclaves par les machines. Donc l'énergie des esclaves est remplacée par les machines. Alors, de quoi va-t-on se rendre dépendant maintenant? De quoi va-t-on se rendre esclave? C'est un cycle, hein. C'est un cycle tout ça. Et derrière ce cycle, il y a les décisions que l'on prend et les conséquences que l'on est prêt à assumer pour notre génération et pour les générations futures. Et j'en finirai avec ça. Si je vous ai apporté ici, à titre informatif, là, le, le plus grand élément que Gaïa nous offre en surface de notre Terre, à Languedoc, il est là. 70 km de profondeur. Ce sont les plus vieilles et les plus profondes ressources que la Terre nous monte jusqu'à notre surface gratuitement. C'est le volcan des Baumes qui nous l'a remonté. Le volcan des Baumes est rentré en éruption il y a à peu près 1,5 million d'années et il a charrié avec ses laves tel un fleuve charrie des galets. Il a charrié des galets venus des entrailles de Gaïa. Ça, c'est des galets de péridotite qui étaient emprisonnés dans une bombe. La bombe, en tant que telle, a été érodée. Il reste le cœur. Vous verrez, il est très dense. Ça, c'est effectivement les minerais qu'il y a sous terre à 70 km de profondeur. Vous avez ici le cœur de Gaïa, le cœur de la déesse. Merci de votre écoute.